Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, les routes migratoires ne font-elles que se déplacer ? Pour la Suède, le changement est spectaculaire. Alors que le pays recevait jusqu'à 10 000 demandes d'asile par semaine en octobre dernier, le nombre n'est plus que de 500 désormais. L'Office suédois des migrations vient d'établir ses prévisions pour l'année en cours. Il devrait y avoir de 2 à 3 fois moins de demandeurs d'asile en 2016 par rapport à 2015. Alors à cela, plusieurs raisons. D'abord, la Suède a systématisé les contrôles d'identité des passagers venus du Danemark pour faire la chasse aux clandestins. Ensuite, la route ouest des Balkans qui part de Grèce pour passer en Macédoine, en Serbie, en Croatie. Cette route est désormais fermée, les pays traversés ayant pris des mesures radicales de contrôle de leurs frontières. Ensuite, il y a l'accord conclu le mois dernier entre Bruxelles et Ankara. Le principe, je vous le rappelle, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, un autre de ses compatriotes sera réinstallé en Europe, dans la limite de 72 000 personnes. Alors, vu de la Suède, la crise des migrants est donc moins perceptible désormais. Mais ce qui vaut pour ce pays ne vaut évidemment pas pour tous les autres. La Syrie, l'Afghanistan restent des pays en guerre. En Libye, plus de 400 000 personnes réfugiées et déplacées à l'intérieur du pays seraient prêtes à partir vers l'Europe. C'est en tout cas ce que déclare la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. La route des Balkans est fermée, la traversée de la Méditerranée depuis la Turquie devient vaine, mais le désir de partir, lui, est intact. Alors les routes migratoires ne font-elles que se déplacer ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités. Nelly Robin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement. Vous êtes rattachée au laboratoire Migrinter à Poitiers. A été publié sous votre codirection chez l'Harmattan en 2014, Crise et migration dans les pays du Sud. Pour discuter avec vous, Caroline Douki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, maître de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste de l'histoire des migrations internationales au 19e et au 20e siècle, mais vous intéressez également à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez publié, là aussi, c'est un ouvrage sous votre codirection, Police et migrants de 1667 à 1939 aux presses universitaires de Rennes. Et puis notre troisième invité, Céline Schmitt, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole en France du HCR, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR qui, la semaine dernière, publiait un communiqué à propos, disait ce communiqué, de ce qui pourrait être l'une des pires tragédies de ces 12 derniers mois. Si elle se confirme, là je dis encore le communiqué, jusqu'à 500 personnes pourraient avoir perdu la vie dans le naufrage d'un grand navire qui a coulé en Méditerranée à un endroit indéterminé entre la Libye et l'Italie. Est-ce que vous avez davantage d'informations une semaine après, Céline Schmitt ?
Non, les informations que nous avons recueillies sont issues de témoignages des rescapés, des survivants de ce naufrage. Et les survivants que mes collègues en Grèce ont rencontrés dans le cadre de leurs activités en fait sur place, donc d'informations des réfugiés, demandeurs d'asile qui arrivent sur quels sont leurs droits, les possibilités de demander l'asile. Donc, mes collègues ont rencontré les rescapés qui ont tous raconté la même histoire, c'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient sur un bateau qui avait quitté la Libye, ils étaient entre 100 et 200 et en mer, ils ont rencontré un autre bateau où il y avait plusieurs centaines de personnes à bord aussi.
Donc un bateau plus grand ?
Un bateau plus grand, exactement. Et en mer, les passeurs ont essayé de faire un transfert du petit bateau vers le grand bateau. Et lors de ce transfert, parce que le grand bateau étant déjà surchargé, le bateau a chaviré et a coulé. Et 41 personnes ont survécu sur la petite embarcation, ont été secourues au cours de plusieurs jours par un navire. Et c'est ces survivants, ces rescapés qui nous ont raconté en fait ce qu'elles ont vu, ce qu'ils ont vu.
Est-ce que vous savez si des recherches sont en cours aujourd'hui pour trouver des traces de ce naufrage ?
Non, j'ai pas d'informations à ce sujet. Nous, on a demandé qu'il y ait une enquête maritime, puisque pour l'instant, les seules informations que nous avons viennent des rescapés, mais qui ont tous raconté la même histoire. On s'est rapproché des gardes-côtes à la fois de Grèce, d'Italie, mais également d'Égypte pour avoir plus d'informations. Mais pour l'instant, les seules informations viennent des rescapés. Il faudrait qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui s'est passé.
Alors ce naufrage, hein, s'il est avéré, il a eu lieu dans ce qu'on appelle la route de la Méditerranée centrale, Nelly Robin. C'est une route qui est sans doute plus dangereuse que celle, par exemple, qui est celle qui existe entre la Turquie et la Grèce, ne serait-ce parce que les kilomètres sont beaucoup plus importants et donc la traversée est beaucoup plus longue. Est-ce que c'est une route aussi qui, on va dire, fait parler d'elle de manière assez saisonnière, c'est-à-dire le printemps est un moment où cette route est davantage empruntée que pendant d'autres saisons parce que c'est plus facile, disons, avec beaucoup de guillemets, de traverser via cette route?
C'est un peu comme toutes les routes maritimes entre l'Afrique et l'Union européenne. C'est vrai pour cette route, cela a été le cas pour la route entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries il y a quelques années. C'est également vrai entre le Maroc et l'Espagne. On voit très bien que entre le mois de mai et le mois d'octobre, sur ces routes maritimes, les flux sont plus importants.
C'est plus important selon les saisons. J'imagine que c'est plus important aussi peut-être selon un principe de vase communicant, Caroline Douki, c'est-à-dire que quand certaines routes deviennent davantage inaccessibles, est-ce qu'on constate un report vers d'autres routes migratoires ?
Oui, alors si on regarde les choses en perspective et en écoutant quelques leçons de l'histoire, moi j'en distinguerai au moins trois, notamment sur les migrations en Méditerranée. La première, c'est qu'il faut comprendre le caractère vraiment structural des migrations. Les migrations ne sont pas une anomalie. Les migrations pour des raisons économiques, les migrations pour fuir la guerre, les migrations pour se déplacer dans un monde où les inégalités économiques et sociales sont très grandes, sont quelque chose de structurel dans l'histoire de notre planète et en Méditerranée depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, la Méditerranée, c'est un espace qui relie les sociétés entre elles et qui l'a été pendant très longtemps. Donc l'anomalie, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on veuille stopper à tout prix ces circulations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous apprend l'histoire, c'est que au moins depuis le 19e siècle, les autorités, les États, les autorités policières, les bureaucraties administratives ont tenté à l'échelle de la planète de contrôler les routes migratoires pour contrôler en fait les sorties des territoires nationaux, les passages à travers des pays de transit ou pour contrôler aussi les entrées sur les territoires nationaux.
Et ça, elles y arrivent parfois ?
Alors, depuis la fin du 19e siècle, les États ont tenté de le faire, ils sont arrivés à filtrer les migrants, mais en fait, ce à quoi ils sont surtout arrivés, c'est en fait à déplacer les migrations. Les migrations sont structurelles, donc se jouent à l'échelle qui est vraiment une échelle toujours quasi planétaire. Donc si on bouge quelque chose dans un coin du monde, ça a des répercussions dans d'autres espaces. Donc là, à l'échelle du présent, on parlait de la Méditerranée et des Balkans, c'est un espace qui est régional assez petit. Donc si on bouge quelque chose en Méditerranée centrale, évidemment, les routes vont se déplacer un peu plus loin. Et si on regarde les choses même depuis 2000 à peu près, les routes ne cessent de se déplacer par un va-et-vient important. Et puis troisième point, si vous me permettez, ce que nous apprend l'histoire aussi, c'est que en fait, ces migrations et ces déplacements de routes migratoires, c'est quelque chose de systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les États émettent, ou même des structures internationales, émettent des normes et des réglementations migratoires qui ne viendraient qu'après coup mettre de l'ordre dans des désordres préexistants que créeraient les migrants ou les passeurs. Non, en fait, c'est la prolifération, ça l'histoire nous le montre, et le présent aussi, c'est la prolifération de normes instables, changeantes tout le temps et à tout moment, de normes qui sont contradictoires, qui créent les désordres et les déplacements de routes migratoires et cette impression de ne rien maîtriser.
Alors on va revenir sur tous ces points que vous avez évoqués, Caroline Douki. Nelly Robin, sur en tout cas l'impact visible ou pas des politiques migratoires quand on regarde justement là où se situent les routes migratoires. Est-ce que là vraiment, c'est la géographe que vous êtes peut presque voir ça, alors je ne vais pas dire à l'œil nu, mais enfin en tout cas sur les cartes c'est extrêmement visible l'impact assez direct justement de ces politiques.
C'est tout à fait vrai. Si l'on prend l'espace subsaharien au cours depuis le début du XXIe siècle, on voit qu'il y a eu des dispositions concernant les routes aériennes qui ont bloqué ces routes aériennes vers l'Europe. Les migrants se sont alors redéployés d'abord vers cette route terrestre de la Libye. S'en est suivi un accord entre l'Italie et la Libye. Donc cette route a été hypothéquée. Ils se sont redéployés sur les côtes atlantiques pour entrer par l'Espagne. Là, il y a eu des accords entre le Maroc et l'Espagne. Donc ils se sont redéployés plus au sud. Ils ont ouvert la route vers les Canaries, celle-ci étant tarie par des dispositions aussi d'accords bilatéraux. Ils ont de nouveau emprunté les routes transaériennes. Et c'est là où, en fait, quelque chose rentre en jeu un petit peu de nouveau entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. C'est qu'il y a la conjonction de politiques migratoires de plus en plus restrictives et l'émergence d'une multiplication de conflits dans des zones qui étaient des zones de transit importantes.
Céline Schmitt, est-ce que cet impact des politiques sur les routes migratoires, on peut déjà le constater quelques semaines, quelques jours après l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie? C'est-à-dire, est-ce qu'on a pu constater qu'il y avait peut-être déjà un tarissement, on va dire, enfin une diminution du nombre de migrants qui arrivaient par cette route et un déplacement peut-être justement de routes migratoires suite à cet accord?
Alors, pour l'instant, on ne peut pas parler de déplacement. Donc, selon les données qu'on a, on a vu effectivement qu'au mois de mars, il y a eu une augmentation significative de personnes qui arrivaient de Libye vers l'Italie. Mais il s'agissait des mêmes nationalités, donc principalement d'Afrique subsaharienne. En avril, à nouveau, il y a une petite diminution. Donc, si on compare les arrivées en 2015 avec les arrivées en 2016, il y a une petite augmentation d'environ 10% du nombre de personnes qui sont arrivées par la mer vers l'Italie. Elles sont maintenant à un peu plus de 26 000 personnes. Mais pour l'instant, très peu de nationalités qui empruntaient la route de la Grèce, de la Turquie vers la Grèce. Il faut savoir que de la Turquie vers la Grèce, il s'agit à 90% de personnes qui fuient des conflits, des persécutions, notamment la Syrie, mais également l'Irak, l'Afghanistan. Pour l'instant, on ne voit pas d'augmentation du nombre de personnes venant de Syrie ou d'Irak qui arrivent en Italie. Par contre, oui, il y a une baisse du nombre de personnes qui arrivent en Grèce.
Et c'est ce que disent d'ailleurs les statistiques de Frontex, effectivement. Une baisse du nombre de personnes qui arrivent en Grèce, une augmentation des migrants en provenance d'Afrique du Nord. Mais effectivement, ce ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est important de connaître aussi l'identité de ces migrants. Alors, je parle des statistiques Frontex. Frontex, je rappelle, c'est l'agence européenne qui est chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne et puis aussi de porter secours aux naufragés. Et il se trouve que Manon Polic, qui est journaliste pour l'hebdomadaire Le 1, a passé plusieurs jours en mer sur un navire de cette agence européenne Frontex. Et Manon Polic, vous êtes avec nous au téléphone. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous étiez dans quelle partie de la Méditerranée sur ce navire, sur ce bateau qui s'appelle le Stéphane Selmar, et à quel moment de l'année?
Alors j'y étais il y a un mois pile poil et j'étais en zone, ce qu'ils appellent la zone N3 de l'opération Triton, donc qui se trouve entre la Sicile et la Libye en fait. Hein. Le bateau partait de Catane en Sicile et acheminait jusqu'à la ligne de démarcation des eaux territoriales libyennes.
Alors vous étiez donc sur cette route de la Méditerranée centrale qui est dangereuse parce qu'elle est particulièrement longue. Est-ce que les patrouilles qui étaient effectuées avec le bateau donc sur lequel vous étiez suivi des itinéraires bien précis, c'est-à-dire que en gros Frontex sait à peu près quel est l'itinéraire qui est généralement emprunté par les réfugiés, ou bien est-ce qu'on cherche de manière assez large parce que les routes sont toujours différentes, les itinéraires sont toujours différents?
Alors en fait, Frontex, le navire de Frontex dépend du centre de coordination de sauvetage maritime qui est basé à Rome. Donc en fait, le bateau patrouille en fonction des ordres. Donc Il n'est pas le seul. Enfin, il y a plusieurs navires en fait qui sont répartis dans des zones différentes. Donc, on sait généralement la zone M3, c'est une zone où on voit le plus d'arrivées. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des bateaux un petit peu partout quand même. En l'occurrence, on était en M1 pendant près d'une semaine, et au bout d'une semaine, on nous a demandé d'aller en M3 porter secours aux embarcations qui arrivaient et aider aussi les autres navires Frontex.
Alors, ce que vous expliquez bien dans votre article, c'est que cette idée de porter secours, elle est intégrée, si ce n'est par les migrants, en tout cas par ceux qui les font passer, c'est-à-dire en leur disant finalement, vous n'aurez pas faire la traversée entièrement seule, puisqu'à partir du moment où vous serez dans les eaux internationales, l'Europe viendra vous sauver.
Oui, alors ça m'a beaucoup marqué en fait, parce que les gardes-côtes, la veille au soir, m'avaient dit « Tu vas voir, demain on va avoir des bateaux ». Ils l'avaient prévu. C'est ce côté prévision et organisation qui est très frappant. Il y avait eu de la tempête pendant plusieurs jours, donc les passeurs n'avaient pas pu faire partir de bateaux, avaient perdu beaucoup d'argent, donc on s'attendait à avoir des bateaux. Et ce que les gardes-côtes m'expliquaient aussi, c'est que souvent les migrants sont très calmes sur le bateau. Ben moi je l'ai vu de moi-même en fait. Les migrants attendaient sur le bateau, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Les gardes-côtes savaient ce qu'ils avaient à faire aussi, et il y avait un côté très organisé.
Par rapport aux migrants, ce sera ma dernière question, Manon Polic, que vous avez pu rencontrer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait une bonne connaissance justement des routes migratoires, ou bien est-ce que la plupart partent un peu à l'aventure?
Moi, j'ai pas pu vraiment beaucoup parler avec eux. Beaucoup ne parlaient pas français, en fait. La plupart étaient nigérians. Il y a toujours une personne sur le bateau qui est chargée de diriger, en fait, le bateau. Donc, cette personne-là a aussi, apparemment, le numéro de téléphone du centre de secours. Ça, ce sont des suppositions des gardes-côtes, parce qu'ils savent pas réellement très bien ce qui se passe et comment c'est organisé. Je ne saurais pas vous dire si vraiment ils suivent une route. Tout ce qu'ils savent, en tout cas, que sur une mer calme, ils mettent tant de temps pour arriver à la ligne de débarcation, et ils savent à peu près quand appeler au secours, quand est-ce qu'ils seront en zone internationale et qu'on pourra venir les sauver.
Et d'ailleurs, Frontex est plutôt vigilante au moment où il y a des mers calmes, parce que sachant que c'est plutôt à ce moment-là que partent les bateaux de réfugiés. Merci beaucoup, Manon Polic. Donc, je renvoie à la lecture de votre reportage 10 jours en mer avec Frontex, et c'est dans le dernier numéro du 1.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Alors, je vous rappelle le thème de notre émission ce soir. Les routes migratoires ne font-elles que se déplacer? Nous en discutons avec Céline Schmitt du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec Nelly Robin, qui est géographe chargée de recherche à l'Institut de recherche sur le développement, et avec l'historienne Caroline Douki, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 8. Peut-être déjà une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, Caroline Douki.
Alors moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'on vient d'entendre, et qui était vraiment très intéressant là à propos du navire de Frontex, c'est ce que disait cette journaliste sur la connaissance par les migrants des routes migratoires, et en fait la connaissance par les migrants des risques qu'ils encourent. Et en fait, il faut bien... ce qu'on comprend bien, c'est que sur ces routes migratoires, il n'y a pas seulement le risque de mort, mais il y a aussi des risques très très graves d'un autre ordre, c'est-à-dire le risque de ne pas passer, d'être refoulé, donc de tout perdre, et de perdre notamment la mise économique qu'on a consacrée au fait d'essayer de passer la Méditerranée. Il y a le risque d'être exploité économiquement par des passeurs, éventuellement. Il y a le risque d'être malmené physiquement, battu, ou pour des femmes violées par des passeurs. Et puis, il y a le risque aussi de finir, non pas sur une route migratoire, mais dans la cartographie qui est connectée à celle des routes migratoires, qui est la cartographie des camps de transit ou des camps de rétention, où les migrants sont immobilisés et n'ont plus qu'à attendre, se décourager, essayer de survivre.
Sur cette question de la connaissance des routes migratoires, Céline Schmitt.
Moi, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux réfugiés donc qui fuient, ce qu'il faut se souvenir, c'est que ils ont souvent pas d'autre choix en fait que de fuir. Et donc effectivement, s'il y a une route qui se ferme, ils vont utiliser une autre route. Et on le voit, 90% des personnes qui sont arrivées en Grèce l'année dernière sont des personnes qui fuient la guerre, qui fuient des persécutions, qui n'ont d'autre choix, qui parfois, effectivement, étaient déjà réfugiés dans les premiers pays d'asile. Donc si on prend la crise syrienne, ils étaient réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban, mais ils sont maintenant plus de 4 800 000 dans ces pays voisins de la Syrie, où les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles et où en fait la solution pour avoir un avenir pour ces enfants est d'essayer d'aller ailleurs. Donc effectivement, ils vont tout tenter pour pouvoir être en sécurité, mais également pour pouvoir avoir un avenir pour leurs enfants.
Tout tenter sur des routes qui sont de plus en plus dangereuses. Nelly Robin, vous disiez tout à l'heure, voilà, pendant des années, pardon, pour les migrants d'Afrique subsaharienne, peut-être d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, voilà, la voie aérienne était vraiment la voie privilégiée. Et plus les portes se ferment, plus les routes deviennent dangereuses.
Exactement. Alors, ils ont une connaissance au départ des grands axes des routes. Mais en fait, surtout, ce qui est à signaler, c'est leur capacité d'adaptation aux contraintes et aux opportunités nouvelles. Aujourd'hui, par exemple, je crois que ce qui fait la spécificité de la situation actuelle, c'est que on a une convergence vers des pôles de transit de deux routes qui, a priori, ne devaient pas se rencontrer, qui est la route du Moyen-Orient et la route qui vient d'Afrique. Parce que les migrants subsahariens, se sentant bloqués par ces risques de la route libyenne, utilisent des réseaux qui ont été initiés par les commerçants entre les capitales ouest-africaines et Istanbul. Et en fait, de par ce fait, ils rejoignent la route du Moyen-Orient et partagent ensuite l'expérience des Syriens, des Irakiens, des Afghans. Cela montre leur capacité immédiate d'adaptation en fonction de contraintes nouvelles.
Il y a une route qui a été très empruntée il y a quelques années seulement, qui était celle entre l'Afrique du Nord et l'Espagne, ce qu'on appelle la route de la Méditerranée occidentale, route majoritaire au début des années 2000. Pourquoi est-ce qu'elle a été à ce point délaissée aujourd'hui pour ne sembler être qu'une route accessoire aujourd'hui, Nelly Robin ?
Parce qu'il y a eu des mesures extrêmement draconiennes prises à la fois par l'Europe avec le concours des pays du Maghreb et particulièrement du Maroc. Le Maroc a révisé sa législation nationale en introduisant dans son code pénal le délit d'émigration clandestine, je dis bien d'émigration, c'est-à-dire le fait de sortir du territoire, ce qui est un principe, une liberté qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc de ce fait, cette route est devenue et considérée par les migrants de plus en plus difficile, d'autant que beaucoup sont restés dans des camps, dans des situations extrêmement précaires au Maroc.
Alors c'est là qu'on peut voir justement à quel point l'impact d'une législation nationale peut être importante, Caroline Douki, pour les pays environnants et à quel point aussi peut-être l'absence de concertation entre des pays d'une même région peut provoquer comme ça des modifications des routes migratoires.
Oui, alors en fait, dans ce que vient de dire Nelly Robin, moi je remarque les deux faces de la chose, c'est-à-dire les concertations pour verrouiller certaines routes. Donc là, on voit les concertations entre certains pays d'Europe, certains pays européens et des pays qui sont des pays de transit. Le Maroc, en fait, a fait un accord avec l'Espagne en tant que pays de transit en s'engageant à fermer ses frontières à l'émigration, mais aussi en s'engageant à récupérer les migrants qui avaient transité par son territoire si jamais ils atterrissaient en Espagne. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est un marchandage entre des questions migratoires et des questions économiques. Parce que pourquoi le Maroc s'est engagé à ça ? C'est parce que en échange, il y a des pressions, enfin, il y a des compensations économiques ou il y a des compensations éventuellement pour les migrants marocains de catégories très particulières. Donc là, on voit des concertations localisées. Mais ensuite...
Mais qui sont trop localisées, c'est-à-dire qui mériteraient beaucoup plus larges.
Bah, qui sont très localisées et qui, en fait, cherchent à verrouiller certaines routes. Et là, ce qu'on voit, c'est que chaque État ou chaque petit groupe d'États, hein, donc chaque législation nationale ou chaque accord bilatéral, sert à défendre des intérêts nationaux ou régionaux égoïstes. Et ce qui est très frappant quand même, même à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui, et même avec l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une prolifération de normes de police, il y a une police des migrations, mais il n'y a pas une politique migratoire concertée et cohérente à l'échelle de l'Union européenne. Or, il en faudrait quand même une, parce que il faudrait quand même rappeler qu'on est dans une situation historique importante. Il n'y a jamais eu, depuis 1945, autour de la Méditerranée et autour de l'Europe, autant de conflits géopolitiques et politiques ouverts qui engendrent à ce point des flux massifs, enfin des millions de flux de réfugiés. Et il faudrait une concertation européenne. Elle n'existe pas.
Alors, pas de politique concertée au niveau européen, Céline Schmitt, mais il y a tout de même donc cet accord qui existe depuis quelques semaines entre, d'une part, donc la Turquie, et d'autre part, c'est quand même l'Union européenne. Est-ce qu'au HCR, vous considérez que c'est déjà un premier pas?
Alors, tout d'abord, je voudrais rebondir sur un point. Effectivement, le nombre de personnes déplacées dans le monde par des conflits n'a jamais été aussi important. Plus de 60 millions de personnes aujourd'hui sont déplacées par des conflits. On voit que ce chiffre augmente. En fait, encore de 2015 à 2016, le chiffre a augmenté. D'anciennes crises ne sont pas résolues. Les personnes continuent à être déplacées, soit réfugiées, soit déplacées dans leur pays. Puis de nouvelles crises naissent. Et donc ça, c'est un point effectivement très important. Et il faut trouver une solution. Et la solution, tout d'abord, c'est le rétablissement de la paix. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, pour nous, il est effectivement important que des accords soient conclus pour éviter le chaos. On a vu l'été dernier le chaos qui a été engendré par l'arrivée de réfugiés en Europe. Donc l'année dernière, 1 million de réfugiés sont arrivés, ce qui devrait être une situation gérable pour l'Europe, mais qui a engendré un chaos sur la route des Balkans. L'accueil n'était pas en place, les personnes n'ont pas été identifiées, pas enregistrées. Donc il est bien qu'il y ait des discussions et des accords, mais ces accords doivent respecter le droit international, le droit européen, c'est-à-dire l'accès à l'asile pour les personnes qui fuient la guerre. Et on suit la mise en œuvre de cet accord, mais certaines garanties ne sont pas encore en place pour que, effectivement, le droit international, les conventions de Genève soient respectées.
Donc ce qui peut poser problème aujourd'hui au HCR, c'est, on va dire, ce sont les garanties, mais ce n'est pas forcément, en tout cas, la méthode qui a été utilisée que de vouloir une concertation qui, là, quand même, une concertation, alors qui n'est pas à niveau totalement global, parce que ça supposerait une approche planétaire, mais enfin, au moins, une approche régionale, c'est quelque chose, c'est le bon niveau, on va dire, de concertation et de réflexion, Nelly Robin.
Je pense qu'il faut quand même nuancer, parce que cet accord, comme le précédent, comme celui du mois de novembre 2015, crée des catégories. C'est-à-dire que il peut apporter peut-être des choses bénéfiques pour les Syriens, les Irakiens, les Afghans, mais par a contrario, il fragilise encore plus les autres nationalités qui sont sur ces routes et qui ne sont pas concernées par cet accord. Donc de ce point de vue-là, il participe une fois encore à mettre en danger, plus qu'il ne protège, un certain nombre de migrants.
À propos de, justement, peut-être de l'identité des migrants, je voudrais qu'on fasse un petit bond en arrière avec vous, Caroline Douki, puisque quand on vous a appelé pour vous proposer de participer à l'émission, c'est Céline Leclerc qui a discuté un petit peu avec vous. Vous lui avez parlé de la politique, ou peut-être davantage des politiques qui pouvaient être menées aux États-Unis, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est-à-dire selon les villes et les États, certains migrants avaient plus ou moins de chances d'être acceptés et donc ils adoptaient des stratégies différentes selon leur origine également.
Oui, alors c'est intéressant de voir ce qui s'est passé au tournant du 19e et du 20e siècle, au moment où les États-Unis ont mis en place donc une politique, non pas de fermeture à ce moment-là de leurs frontières, mais en fait ils ont mis en place une politique de filtrage des migrants pour sélectionner parmi les 10 millions de migrants qui sont entrés aux États-Unis entre 1890 et 1914, donc la volonté de sélectionner ils voulaient sélectionner en fait une main-d'œuvre utile au développement du capitalisme américain, et puis aussi des groupes en fonction de l'idéal de population qu'ils voulaient développer aux États-Unis. Et donc il y avait des catégories, on filtrait ces migrants en fonction de critères sanitaires, médicaux, moraux, politiques, on essayait d'éviter les extrémistes politiques, et puis aussi des critères culturels et ethniques. Et aussi, un des critères était de filtrer des migrants donc qui soient capables de travailler et qui ne soient pas des migrants faméliques qui allaient tomber immédiatement à la charge de l'assistance publique. Donc les migrants, en fait, avaient développé des stratégies d'adaptation ou de contournement. Et donc parmi ces stratégies d'adaptation, donc, ça consistait, il s'était rendu compte que les sélections, les filtrages, l'administration fédérale américaine était très efficace à Ellis Island. Elle l'était beaucoup
donc
moins
à New York.
À New York, elle était beaucoup moins à Philadelphie, ou elle l'était encore moins à la Nouvelle-Orléans. Donc, en fait, il choisissait le port en fonction de ce genre de stratégie. Ou éventuellement, il pouvait passer par des ports de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, et puis ensuite remonter par les voies terrestres vers les États-Unis. Et puis sinon, donc, ils avaient aussi des stratégies d'adaptation pour passer à travers les catégories sociales. Donc, une des possibilités était de miser économiquement sur le fait de passer non pas en troisième classe dans les paquebots, mais de passer en deuxième classe, là où voyageaient plutôt les touristes, ce qui permettait de passer des contrôles qui étaient beaucoup plus rapides. Voilà.
Voire de passer comme marin, c'est-à-dire d'être marin sur un bateau, ce qui pouvait faciliter l'accès au pays.
C'est ça. Donc, notamment, il y a des travaux qui ont montré que les Africains qui voulaient entrer aux États-Unis au début du XXe siècle, donc ils ne pouvaient pas passer par ces catégories de filtrage des migrants, en fait, s'engageaient sur les paquebots, non pas comme migrants, mais comme marins, et ils désertaient une fois qu'ils étaient arrivés au port américain, où ils étaient censés faire juste une étape, et en fait, ils débarquaient à New York, et ils s'installaient à New York, clandestinement.
Ça provenait, les Robins, que quand on pose la question ce soir, les routes migratoires ne font-elles que se déplacer, on peut vraiment y répondre par l'affirmative.
Tout à fait, en permanence. Je ne sais pas si elles se déplacent, ou si, surtout, elles se réactivent, parce qu'elles se maintiennent, en fait. Ce n'est pas une route qui est active, qui s'interrompt, elle se maintient, elle devient plus ou moins importante. Donc il y a ce jeu perpétuel de mémoire du migrant. C'est-à-dire que le migrant, ce n'est pas un individu seul, il appartient à une communauté qui était elle-même migrante, ou à un environnement, et cette mémoire se transmet. Elle se transmet dans le long terme, elle se transmet aussi avec les nouvelles technologies dans l'actualité. C'est un facteur d'appel extrêmement important de savoir que un membre de la communauté est arrivé. Aussi complexe que soit la route, et qui, par les nouvelles technologies, le téléphone, Internet, les chats, fait constater que cette route-là est possible.
Céline Schmitt, sur l'apport des nouvelles technologies pour l'adaptation des stratégies migratoires.
Oui, effectivement, on le voit très bien avec les réfugiés aussi, que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies sont utilisées pour avoir des informations. Et on a vu, en fait, en Grèce, que très souvent, quand les réfugiés arrivaient, une des premières questions qui était posée, c'est où est l'accès à Internet ? Donc, effectivement, les nouvelles technologies, les médias sociaux sont utilisés pour échanger des informations.
Sur l'impact et des politiques et des décisions qui sont pas forcément qui passent pas forcément par des législations, mais par exemple, on a vu depuis quelques années se bâtir un certain nombre de murs en Europe. Il y en a eu en Grèce, c'était en 2012 le mur d'Evros qui essaie de couper la frontière commune entre la Grèce et la Turquie, un mur en Bulgarie en 2014, une clôture en Hongrie en 2015. Est-ce qu'on arrive à mesurer, on va dire, disons, un impact immédiat, justement, une efficacité, disons, immédiate du point de vue de ceux qui bâtissent ces murs sur les flux de réfugiés? Et est-ce que c'est une efficacité, disons, et là aussi je mets des guillemets autour de ce mot, qui perdure sur le long terme?
En fait, les murs ne font que déplacer les routes. Les personnes qui fuient la guerre n'ont pas de choix. Ils vont essayer de trouver une autre route pour fuir. Donc vraiment, les murs, les barbelés ne sont pas la solution. Et aussi parce que il faut montrer la solidarité envers les personnes qui fuient. Et ces pays qui construisent des murs ont eux-mêmes connu aussi des situations dans lesquelles leurs citoyens ont dû fuir et ont été accueillis par d'autres pays, donc ont bénéficié de la solidarité d'autres pays voisins. Donc il faut se souvenir de ça, et effectivement dans l'histoire aussi. Et malgré la construction de murs, on a vu que d'autres routes étaient utilisées et que les réfugiés continuaient à arriver.
Caroline Doki.
Oui, sur la question des moyens informatiques et électroniques, donc qui permettent aux migrants de se repérer, il faut aussi voir qu'ils permettent aux États de consolider ces murs, parce que les murs ne sont pas seulement physiques, c'est pas seulement des briques et des fils barbelés. Ce sont aussi, enfin, les États s'abritent aussi à l'abri de murs électroniques et de murs de papier, des murs bureaucratiques, c'est-à-dire les murs constitués, les barrières constituées par les politiques de délivrance des visas qui ne sont pas délivrés, que les migrants attendent, ou bien les politiques d'instruction des dossiers de demandeurs d'asile, où les migrants doivent déposer leur dossier, attendre pendant très longtemps une réponse à ces dossiers. Et donc ça, c'est bureaucratique, électronique, informatisé, et ça sert aussi à consolider les murs, quoi.
Est-ce que aujourd'hui, Nelly Robin, dans les routes migratoires vers l'Europe, il y en a certaines dont on peut dire qu'elles sont à peu près sécurisées, ou bien lorsqu'ils justement caractérisent les routes migratoires vers l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'absence quasi totale de sécurité.
Alors, de la sécurité pour les migrants ?
Oui.
Oui. En fait, ils les sécurisent eux-mêmes, si je puis dire. Si on prend certaines routes au départ du Kurdistan irakien, par exemple, ou même de Syrie, il y a des sortes d'agences de voyage qui ont pignon sur rue dans les quartiers d'origine de ces migrants et qui, en fait, proposent un package, entre guillemets, qui permet aux migrants, au mieux, de sécuriser sa route jusqu'en Allemagne. C'est-à-dire que ces agences de voyage disposent d'un certain nombre de relais en Turquie, puis en Macédoine, puis en Serbie, et ainsi de suite jusqu'en Autriche. Et alors, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si on considère, par exemple, une route entre la Syrie ou l'Irak et l'Allemagne, si on opte pour un parcours non sécurisé, ça va coûter aux alentours de 2000 euros. Si par contre, on opte pour ce parcours entre guillemets sécurisé, le package va être extrêmement cher. Ça va être environ 10 000 euros. Donc, il y a ce souci des migrants d'aller vers quelque chose de plus sécurisé possible, avec toutes les réserves que cela induit.
Céline Schmitt.
Oui, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça aussi, c'est qu'effectivement, des Syriens, des personnes qui fuient la guerre, sont amenées à payer des milliers de dollars ou d'euros pour simplement fuir et être dans un pays où ils cherchent la sécurité, alors qu'un billet d'avion coûterait peut-être moins de 100 ou quelques centaines de dollars. Et effectivement, c'est choquant de voir que des personnes payent tant d'argent pour simplement fuir la guerre. Et c'est pour cela que nous aussi, on appelle en fait les États à proposer davantage de voies légales pour permettre aux réfugiés, aux demandeurs d'asile d'arriver en Europe, mais pas qu'en Europe. Et ces voies légales sont notamment, oui, des visas d'asile ou des visas universitaires ou des bourses d'études pour les étudiants, des parrainages privés.
Mais comment est-ce que vous pouvez, quand vous êtes du côté de l'État justement, dire on va proposer des voies qui seront peut-être davantage sécurisées, qui sont des voies légales, tout en maîtrisant les flux migratoires, puisque chaque État aujourd'hui souhaite maîtriser ces flux migratoires.
Mais il y a un devoir de solidarité, il s'agit de personnes qui fuient la guerre, et il y a un devoir de solidarité aussi envers les premiers pays d'asile qui accueillent les réfugiés tout d'abord. Par exemple, le Liban, qui accueille 1 200 000 réfugiés aujourd'hui. Le Liban a besoin d'aide tout d'abord pour accueillir les réfugiés, mais également les États européens doivent montrer la solidarité en accueillant plus de réfugiés. On a estimé au HCR que pour les réfugiés syriens, il faudrait au moins 480 000 places d'admission humanitaire, ce qui correspond à 10% de la population réfugiée syrienne, parce qu'en général, 10%, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables. À ce jour, les places qui ont été offertes sont maintenant à un peu plus de 180 000.
Un tout dernier mot, Nelly Robin, on parle beaucoup et à juste titre des routes migratoires qui conduisent vers l'Europe, mais est-ce qu'il y a des routes qu'il faut observer attentivement aujourd'hui ailleurs dans le monde, parce qu'elles sont aussi extrêmement problématiques ?
Bien sûr, il y a, on évoquait les États-Unis, il y a les routes qui remontent de l'Amérique du Sud vers les États-Unis, qui sont aussi des routes extrêmement délicates et dangereuses, dangereuses pour les adultes, mais aussi de plus en plus pratiquées par les mineurs.
Caroline Doki.
Puisqu'on en est presque à la conclusion, moi je voudrais dire qu'actuellement les États européens ne maîtrisent pas les flux migratoires, même s'ils ne cessent de légiférer ou d'émettre des normes, etc. Ils ne maîtrisent pas les routes migratoires, ils ne font que les déplacer. Et donc il faut ouvrir une géographie des routes migratoires en accord avec les engagements internationaux que les États européens ont signés, notamment la Convention de 1951 sur les réfugiés.
Bien, merci beaucoup à toutes les trois. Désolé, mais c'est la fin. Merci d'avoir participé à cette discussion. Caroline Doki, Nelly Robin et Céline Schmitt. Discussion que vous pouvez poursuivre. Là, je m'adresse à l'ensemble de nos auditrices et de nos auditeurs sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vos commentaires, vous pouvez également nous écrire, réécouter l'émission aussi longtemps que vous le souhaitez. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean Frédérics. Demain, comment sortir de l'état d'urgence? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20. Tout de suite, c'est ping-pong. Bonsoir Mathilde et bonsoir Martin.